Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Radio Diwa pour l'interview du jour que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5 ou alors podcaster sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Rouchouze. Bonjour.
Bonjour, président de l'association de sauvegarde des cimetières familiaux du département de la Drôme. Une association qui a été créée en avril 2012. Et qui compte une soixantaine d'adhérents. Donc le but de l'association, enfin il y en a plusieurs, c'est premièrement de faire l'inventaire à partir d'une fiche descriptive très précise de tous ces petits cimetières familiaux qui sont dispersés dans tout le département. On considère qu'il y en a peut-être près de 1000 dans le département de la Drôme. Donc de décrire ces cimetières à partir d'une fiche, est-ce qu'ils sont en état d'abandon ou pas, est-ce qu'ils sont entretenus, est-ce qu'il y a des stèles, quelles sont les personnes qui sont enterrées, et quelle est la végétation. Voilà, il y a une fiche descriptive très précise pour chaque cimetière familial. Ce travail n'a jamais été fait, donc c'est une première pour le département de la Drôme. Et puis ensuite, l'association peut se charger éventuellement d'un petit entretien de ces cimetières familiaux, éventuellement un débroussaillage, parce qu'il y en a qui sont abandonnés depuis 50 ans ou plus, et donc ils sont devenus des forêts vierges. Et puis, et on se préoccupe alors comment sauvegarder ceux qui sont en ruine, parce que le problème de ces cimetières familiaux, c'est qu'ils sont privés, donc ils ne sont pas pris en charge par les communes, et il se trouve qu'il y a des familles qui n'ont pas de descendants, et à ce moment-là, le cimetière familial tombe en ruine, n'est plus entretenu. Alors que ces cimetières familiaux, qui sont d'origine protestante, puisqu'ils sont liés à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685. En révoquant l'édit de Nantes, les protestants avaient l'interdiction. Il n'y avait plus de cimetières cimetière protestants autorisés. Et ils ne pouvaient que être enterrés dans les cimetières catholiques, paroissiaux. Mais s'ils ne se convertissaient pas, à ce moment-là, ils s'enterraient en secret, de nuit, dans leur champ. C'est à partir de là que les cimetières familiaux sont apparus. La tradition est restée, et maintenant, comme il y a beaucoup de mariages mixtes, ce sont devenus des cimetières familiaux, hein, où on peut trouver des fois autant de catholiques que de protestants. À l'origine, ils sont tous historiquement, c'est lié à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Il y a des cimetières familiaux, surtout dans le Diois, mais aussi beaucoup du côté de Bourdeaux, du côté de Dieulefi, un peu sur le rebord ouest du Vercors. Et bien sûr, la Drôme n'est pas le seul département où il y a ces cimetières familiaux. Il y en a en Ardèche, il y en a en Isère, il y en a en Poitou, en Charente. On pense qu'il y en a plus de 10 000 sur le territoire français. Donc il y a un patrimoine, en fait, qui est vraiment à sauvegarder.
Et vous travaillez avec d'autres associations pour cette
découverte ? On est en relation avec les associations de sauvegarde du patrimoine qui existent sur le département de la Drôme, l'association de sauvegarde des monuments anciens de la Drôme. On est en relation aussi avec Dia Augusta, avec l'association des Amis des Arts, parce qu'on va partager un local commun bientôt au musée de Die. Donc sur le Diois, on est en relation avec l'association des Amis des Arts et Dia Augusta. Et puis on est en relation avec d'autres associations Samedi dernier, je donnais une conférence à Comps suite à l'Assemblée Générale de l'Association de sauvegarde du patrimoine de Comps, qui organise des concerts dans l'église de Comps. Voilà, donc on peut, il arrive que l'on intervienne. Mais cette sauvegarde est importante parce qu'on a vraiment un problème de cimetières familiaux qui sont en ruine.
Ces cimetières qui sont dans le Diois, par exemple, est-ce qu'ils ont subi les méfaits du temps et aussi de peut-être...
C'est essentiellement le fait que les familles soient n'ont plus de descendants. Hein, donc le cimetière est privé s'il n'y a plus de descendants. Plus personne ne s'en occupe. Donc la végétation reprend rapidement ses droits. Ça peut être dû aussi au fait que, malheureusement, bah, quelquefois, les familles se désintéressent du cimetière où sont enterrés les grands-parents ou les arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents. Ça, c'est la deuxième cause. Voilà, c'est essentiellement ces deux causes qui expliquent qu'un certain nombre de ces cimetières soient en état d'abandon, alors qu'ils ont, ils peuvent être très beaux, avec des stèles, avec des dalles, avec quelquefois des personnalités enterrées dans ce cimetière. Voilà.
Quel est cet intérêt pour vous d'essayer de retrouver les choses du passé, et particulièrement des tombes?
Ben c'est un intérêt patrimonial. Les cimetières, qu'ils soient paroissiaux, communaux ou familiaux, bon, le cimetière du Père Lachaise à Paris est connu comme étant un patrimoine très important. Et c'est la même chose pour les cimetières familiaux. Alors il y a aussi cet intérêt historique, hein, parce que c'est donc lié à la révocation de l'édit de Nantes. Il y a toute une histoire, en fait, du protestantisme français qui a profondément marqué le département de la Drôme, puisque à une époque, certains villages étaient entièrement protestants. Hein, avant la révocation de l'édit de Nantes, disons au moment de l'édit de Nantes, de la création de l'édit de Nantes par Henri IV en 1610, on avait tout de même 10% de la population française qui était protestante. C'est-à-dire qu'on avait 2 millions de protestants en France. Ensuite, il y a eu les guerres de religion. Enfin, l'édit de Nantes a été précédé par les guerres de religion. Le protestantisme arrive en France dans les années 1520, hein, suite à l'action de Luther, à l'action de Calvin, voilà, et aux réactions contre l'Église catholique, contre les abus de l'Église catholique. Donc ce protestantisme arrive dans les années 1520-1640. La Drôme devient en grande partie protestante. Il y a la fondation de l'Académie protestante à Die. Ensuite, il y a l'édit de Nantes, signé en 1610 par Henri IV, qui fait que Die devient une place forte protestante, donc un haut lieu du protestantisme. L'Académie de Die donne un enseignement du primaire jusqu'à l'université. Elle forme des pasteurs. Donc il y a une vie protestante très, très importante, très importante. On a des villages comme Poyol, où il y avait 200 protestants et 3 catholiques. Hein, et par contre, peu à peu, alors il y a une période de tolérance, d'équilibre entre protestantisme et catholicisme, qui dure assez longtemps après l'édit de Nantes, mais à partir des années 1550, 1660, les persécutions contre les protestants reprennent. Donc des temples sont détruits, il y a les dragonnades qui font que des militaires s'installent dans les familles protestantes et à leurs frais, avec des cas de cruauté, et n'en partent que si les gens se convertissent. Hein. Donc, et ces persécutions augmentent, il y a la... Et finalement, Louis XIV considère presque qu'il n'y a plus de protestants. Donc il révoque l'édit de Nantes en octobre 1685. À ce moment-là, 200 000 protestants en France s'exilent et partent en Suisse, en Allemagne du Nord, en Angleterre et même en Afrique du Sud. Donc il y a un exil de 200 000 protestants, ce qui est important, d'autant que c'était souvent des personnes lettrées, puisque dans le protestantisme, on doit lire la Bible. Donc c'était des lettrés, c'était des artisans qualifiés, c'est une perte importante pour le pays. Et il y a aussi 2 000 à 3 000 protestants qui sont condamnés aux galères. Donc l'édit de Nantes a été accepté par la majorité de la population à l'époque où il a été révoqué. Des gens comme La Bruyère, La Fontaine ont trouvé très bien qu'on révoque l'édit de Nantes. Il n'y a guère que Vauban et Saint-Simon qui ont dit que c'était une erreur. Sur le long terme, ça s'est révélé être une erreur très importante, l'une des plus rares erreurs politiques qu'un dirigeant puisse commettre, puisque ça a ruiné certaines régions, d'autant qu'il y a eu, par exemple, dans les Cévennes, la guerre des Camisards, qui a duré une dizaine d'années en plus. Voilà, cet édit de Nantes est révoqué, et à partir de là, les protestants étaient obligés de s'enterrer dans leur champ, en secret. Et cette persécution, parce que les protestants n'avaient plus d'état civil, s'ils ne se convertissaient pas, ils n'avaient plus d'état civil. Donc ça a duré jusqu'à l'édit de tolérance de Louis XVI en 1787, qui a redonné aux protestants un état civil. Et ensuite, il y a eu la Révolution française en 1789, donc les habitants de la France sont égaux en droit. Donc là, les protestants et puis aussi les juifs, n'importe quelle religion, ont retrouvé l'état civil. Ensuite, Napoléon a organisé à nouveau les cultes. Il y avait donc l'autorisation pour les protestants d'avoir un cimetière collectif protestant à côté du cimetière catholique. Napoléon a continué aussi à organiser. Il a retiré la propriété des cimetières à l'Église catholique. Hein. Et puis ensuite, alors beaucoup plus tard, on a eu les lois de 1881 et puis la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. À ce moment-là, à partir de 1905, par contre, les religieux, qu'ils soient pasteurs ou curés, n'étaient plus rémunérés par l'État, contrairement à la période de Napoléon. Donc c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais cette tradition des cimetières familiaux protestants est restée. Donc des protestants ont continué à créer des cimetières. Hein, et même maintenant, en 2015, on peut bien entendu utiliser... Si dans sa famille on a un cimetière familial protestant, on peut être enterré sans aucun problème dans ce cimetière. On peut même l'agrandir, on peut même en créer un à condition simplement d'avoir un accord hydrogéologique. En 1990, il a fallu un accord hydrogéologique. Mais donc il y a une tradition qui est restée, qui est importante et qui fait que... De temps en temps, dans la campagne, on voit un petit carré avec un cyprès. C'est un cimetière familial protestant.
C'est caractéristique, un cyprès dans un cimetière protestant ?
Oui, c'est caractéristique de la Drôme, mais on en trouve aussi en Ardèche, on en trouve en Poitou, on en trouve en Charente, dans de nombreux départements.
Est-ce qu'il existe des écrits, ou même parce que c'était tenu secret, ces enterrements et ces cimetières familiaux, d'après ce que j'ai compris, mais est-ce qu'au sein du protestantisme, il existait des registres qui établissaient les emplacements des cimetières familiaux, et est-ce qu'il en reste des traces de ces documents ?
Il y a eu quelques traces avant, à un moment donné, À partir de 1787, l'édit de tolérance. Donc là, à partir de l'édit de tolérance, les curés devaient enregistrer les baptêmes, les mariages, les enterrements, même des protestants ou des convertis. Voilà. Donc là, on a retrouvé des archives avec l'état civil. Ensuite, les cimetières familiaux ont été, les cimetières communaux ont été municipalisés à partir de 1881. Il y a eu la municipalisation des cimetières. Donc là, c'est l'État qui s'est occupé des cimetières communaux. Hein. Mais les cimetières familiaux ont continué leur existence. Par contre, dans les mairies, les seuls documents que l'on peut trouver sur les cimetières familiaux, c'est à partir de 1990, ceux qui ont eu un accord hydrogéologique qui disait qu'il n'y avait pas de problème de pollution de la nappe phréatique. Bon, en fait, c'était un peu un excès de zèle d'un préfet. Aucun cimetière familial n'a été refusé. Aucun ne polluait la nappe phréatique. Mais donc, on peut avoir dans certaines communes, mais pas toutes, parce qu'il y a des communes qui n'ont pas fait les accords hydrologiques, qui ne s'en sont pas occupées. Donc, dans certaines communes, on peut avoir la liste des cimetières familiaux qui sont agréés. Hein. Alors, bien entendu, au moment où ces accords hydrologiques ont été passés, on a demandé aux personnes, est-ce que vous voulez continuer à utiliser votre cimetière familial ? Donc, est-ce que vous prenez l'accord hydrogéologique ? Mais il y a des familles qui ont dit non. Nous, on va au cimetière communal. Donc, on a, pour toutes les communes, des cimetières qui ont l'agrément, d'autres qui ne l'ont pas. Et on a ce problème de ces cimetières qui, eux, sont en état d'abandon.
Comment ça se passe quand un promeneur, par exemple, trouve une chose intrigante, une pierre, par exemple, au sol, recouverte de végétation
Alors,
comment ça se passe
C'est la difficulté. D'abord, on veut faire l'inventaire exhaustif de tous les cimetières familiaux du département de la Drôme. On a relativement bien avancé. On en est actuellement, en mars 2015, à 300 cimetières familiaux répertoriés sur fiches descriptives, avec photos, avec les conditions d'accès, avec le nom des personnes, avec savoir si c'est entretenu ou pas entretenu. On en a répertorié 300. Il y en a probablement un millier dans le département. Hein? Donc ça, c'est le premier travail. Et comme on décrit sur l'affiche l'état du cimetière. Donc s'il est abandonné, on met « abandonné ». Et puis il y a une petite case sur la flore. Donc on dit, il y a des cyprès, il y a des ifs, il y a des traces de sangliers parce que c'est complètement l'abandon. Voilà, donc il y a une fiche très précise pour chaque cimetière. S'il y a une personnalité, on dit, il y a telle personnalité enterrée. On peut même donner des éléments en ce qui concerne cette personnalité. Vous avez Marcel Legault, un mathématicien, un philosophe, qui est enterré au cimetière familial des Granges de Lèche, par exemple, hein, dans le Diois. Il y a d'autres personnalités. À Bourdeaux, vous avez un pasteur, Alexis Muston, qui a été un historien du mouvement religieux des Vaudois, qui a été un dessinateur. Voilà, il y a des pasteurs, bien sûr, qui sont enterrés dans les cimetières familiaux. Il y a aussi le cas des jeunes qui sont morts à la guerre de 14-18, des soldats tués à la guerre de 14-18, qui sont enterrés dans un cimetière familial. Ça, cela existe aussi. Voilà, donc on fait ce répertoire. Et éventuellement, on peut, sur demande, entretenir, mais de façon modeste, parce qu'on n'a pas les ressources financières, entretenir un cimetière familial, le débroussailler au minimum. Hein, on pense aussi quand même débroussailler quelques cimetières qui sont en complet état d'abandon et qui ont un intérêt patrimonial. On a aussi le projet de relier un petit circuit de découverte des cimetières familiaux sur le sentier des Huguenots. Hein, le sentier des Huguenots, donc c'est l'idée de créer le sentier des Huguenots est apparue à partir de 1997 par Johannes Melzen. Et ce sentier des Huguenots reprend le chemin d'exil que prenaient les Huguenots après la révocation de l'édit de Nantes. Donc il part de Poët-Laval et il monte jusqu'au nord de l'Allemagne. Il fait 1600 km. Il est fléché et il vient de devenir sentier de grande randonnée européen, hein, d'intérêt culturel européen. Ces cimetières familiaux sont aussi intéressants à découvrir pour ceux qui font des randonnées le long du sentier des Huguenots, qui est pas loin d'être achevé au niveau de son itinéraire avec les panneaux directionnel.
Et vous êtes ici pour nous parler d'une assemblée générale à venir et qui aura lieu quand ?
Alors l'assemblée générale de l'association, hein, donc de sauvegarde des cimetières familiaux, elle va se tenir le samedi 28 mars à 16h à la salle municipale de la mairie de Ponet. Ponet, c'est à 3 km de Die, il faut prendre la route de Marignac. Et puis, c'est à la mairie de Ponet, à la salle municipale. Et auparavant, pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent venir à 14h et on leur fait découvrir les petits cimetières familiaux de Ponet et le village de Ponet. Donc, à partir de 14h, il y a un rendez-vous à la mairie pour découvrir Ponet et ses cimetières familiaux. Et à partir de 16h, c'est l'assemblée générale de l'association avec ce que l'on a fait en 2014, les projets que l'on a pour 2015.
Les Juifs, par exemple, n'avaient pas le droit non plus d'être enterrés dans les cimetières catholiques, je suppose.
Et non. Et ils étaient... À partir de la Révolution, oui. Il y a eu l'autorisation. Sauf en Alsace, je crois, il n'y a pas de carré religieux. Hein, c'est-à-dire que dans un cimetière, on n'a pas un carré où il y a uniquement des personnes de la communauté juive ou uniquement un carré où il y a des personnes de la communauté protestante. Non. Mais alors ça, c'est une loi. On peut mettre sur une tombe, sur chaque tombe, on peut mettre un signe indiquant la religion de la personne qui est enterrée. Par exemple, pour quelques cimetières familiaux, c'est relativement rare. On a la croix huguenote, hein, qui est un peu un symbole du protestantisme. C'est relativement rare. Pour les cimetières catholiques, ben on aura une croix avec le Christ. Parce qu'en général, les protestants ne mettent pas de Christ sur la croix. Ils considèrent qu'il est toujours vivant, donc on ne le met pas. Tandis que pour les catholiques, c'est souvent la croix avec le Christ. Donc c'est des fois symbolique ça indique que la personne est catholique. Hein. Il y a ça. Pour la communauté juive, on a l'indication, les symboles de la communauté. Pareil pour l'islam, c'est autorisé pour chaque tombe. Il y a un petit inconvénient, c'est que ça peut éventuellement augmenter, comme on l'a vu, augmenter le risque de vandalisme. Bon, ça c'est un inconvénient possible. On n'a pas de cas de vandalisme en ce qui concerne les cimetières familiaux. C'est surtout une détérioration avec le temps. Quelquefois, il y a des stèles verticales, hein, calcaires. Le sol bouge et la stèle tombe. Voilà, avec le temps. Les premières stèles datent des années 1820-1830. Et la plus vieille inscription gravée en date de naissance, c'est pour une veuve Talon à Poyol, c'est 1788. C'est la première inscription gravée sur une plaque. Et on a beaucoup d'inhumations qui se font à partir des années 1820, 1850, 1870. Donc ces cimetières commencent à être anciens, vraiment. Hein.
Voilà. Et il y a un public qui s'intéresse beaucoup à ce que vous faites.
Oui. Parce que, par exemple, moi, j'ai donné une conférence à Compes sur les cimetières familiaux. où il y avait 80 personnes qui étaient présentes. Donc, y a un intérêt historique, y a un intérêt patrimonial au niveau de quelque chose qui doit être sauvegardé. Y a une sorte de tradition dans le protestantisme où on aime bien savoir comment ça a évolué. C'est du domaine culturel, bien sûr.
Jean-Claude Rouchouz, vous vous intéressez aussi à beaucoup de choses dans le Diois. Par exemple, je sais que vous avez fait la carte des cours d'eau de la Drôme aussi.
Enfin, j'ai fait la...
Et vous en avez répertorié.
La carte des ressources halieutiques du Diois, voilà, la carte des ressources aquatiques, halieutiques et aquatiques, c'est-à-dire le nom des ruisseaux du Diois, où on trouve les poissons, quels poissons on trouve. J'ai fait ça. Et puis j'organise aussi, alors ça c'est dans le cadre de l'Association des Amis des Arts, une promenade géologique dans le Diois, qui est très intéressant au niveau géologie.
Je vous avais déjà interviewé sur ce sujet l'année dernière, je crois
bien.
Mais est-ce que chaque cours d'eau qui est répertorié sur votre carte a un nom ?
Ah oui, tous les cours d'eau ont un nom. Enfin, sauf les tout petits. Mais pratiquement, tous les cours d'eau ont un nom, la Baie ou Apoyol. Bon, il y a le Bèze, il y a l'Archiane. Pratiquement, c'est rare qu'un cours d'eau permanent n'ait pas de nom.
Oui, parce qu'il y a des cours d'eau qui sèchent l'été, qui sont complètement taries, et donc n'ont pas forcément de nom. Ce sont des rues, tout simplement. Voilà, qui vivent avec le temps.
Oui, en ce qui concerne les cours d'eau qui s'assèchent, la Drôme, par exemple, peut s'assécher au-dessus du marais des Bouligons. Parce qu'en fait, mais ça c'est lié à la géologie, ça s'enfonce en profondeur dans les cailloutis. Donc elle est à sec en surface, mais en profondeur, ça passe toujours. Et le marais des Bouligons, lui, redonne de l'eau à la Drôme. Et à partir du marais des Bouligons, la Drôme n'est jamais à sec. Mais on a d'autres ruisseaux, par exemple la Sûre. La Sûre peut être à sec dans sa partie aval. C'est presque la règle. En juillet et août, le Rioussais, à côté de Saillant, au nord de Saillant, et systématiquement à sec pendant l'été. Alors par contre, il y a l'inverse. La Drôme reste une rivière torrentielle, dangereuse, puisque la dernière crue importante, elle est quand même montée à 600 mètres cubes par seconde, c'est-à-dire deux fois le débit de la Seine. Donc ça reste une rivière qui peut avoir des crues très importante. Malgré la reforestation, il peut quand même y avoir encore des crues importantes.
Eh bien, Jean-Claude Rouchouz, merci d'être passé. Donc, vous pouvez rappeler cette Assemblée Générale qui aura lieu le 28 mars, c'est ça ? À la salle à Poney, la salle...
Donc à Poney, c'est la salle municipale. Oui. Donc le samedi 28 mars à 16h.
Jean-Claude Rouchouz, cette assemblée s'adresse à quel public alors ?
L'assemblée, c'est l'assemblée générale annuelle, mais elle s'intéresse à tout public, à ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la religion, au Diois, au département de la Drôme. Donc toute personne est bienvenue. Pour assister à cette réunion.
Eh bien, Jean-Claude Rouchouz, merci.
Merci bien.
Interview.
Au revoir.
Interview.
Okay. The bird.